Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous arrivons à un épisode de la vie d'Abraham qui est très intéressant et en même temps très difficile, qui peut paraître même subtil. Cependant, je tiens absolument à le commenter auprès de vous, parce que vous vous trouvez très souvent dans des situations semblables, et très souvent, vous avez à prendre des décisions aussi surprenantes que celles d'Abraham. Voici ce dont il s'agit. Abraham est donc en Terre Sainte, mais survient une famine, qui a été permise par Dieu, bien entendu, et même voulue par Dieu, parce que Dieu peut vouloir des famines. Alors, pour survivre, Abraham fuit en Égypte, mais arrivant en Égypte, il craint que l'extraordinaire beauté de Sarah ne provoque son enlèvement et que lui-même ne soit tué comme étant l'époux de cette femme convoitée. Il dit donc à Sarah : « Déclare que tu es ma sœur. Ainsi, je survivrai. » Sarah agit ainsi. Elle est effectivement remarquée par les Égyptiens. Elle est tellement belle que ceux-ci, au lieu de l'enlever pour eux, l'amènent à Pharaon, qui décide de la demander à Abraham pour qu'il la lui cède comme femme. Pharaon couvre pour cela Abraham de richesse, qui est le prix à payer pour la femme. Mais, arrivé à un certain temps, Dieu frappe Pharaon de grands maux. Celui-ci comprend que cette femme est protégée de Dieu, et il la rend à Abraham en lui disant de repartir chez lui. Si vous voulez, mes bien chers frères, bien comprendre et bien profiter de la leçon très riche, ou même des leçons très riches de ce passage de la vie d'Abraham, il faut analyser soigneusement et poser les problèmes les uns après les autres, surtout sans se précipiter, sinon on ne fait que des bêtises. Le premier problème est donc celui-ci: Abraham doit-il fuir ? Dieu lui a dit « Quitte ton pays et ta famille », donc Abraham ne peut pas retourner vers le nord parce que cela serait retourner vers son pays. Il est évident qu'Abraham ne peut pas fuir à l'est puisque c'est le désert, ni à l'ouest parce que c'est la mer Méditerranée. Il ne peut donc fuir la famine que vers le sud, c'est-à-dire vers l'Égypte. Mais, nous dira-t-on, n'aurait-il pas mieux valu qu'il restât sur place, quitte à mourir sur place? Et non, puisque Dieu lui avait promis une grande descendance, ce n'est pas qu'Abraham tenait plus que cela à la récompense, ou à ce don, mais c'est que puisque Dieu l'avait promis, Dieu le voulait, et puisque Dieu le voulait, Abraham ne pouvait pas se mettre en travers de la volonté de Dieu. Il devait donc assurer sa propre survie, car tout l'avenir de la foi, et même l'Église, vous le savez bien, mes bien chers frères, dépendait de cela. Vous me direz que Dieu aurait pu faire la même promesse à un autre, Abraham étant mort de faim, il aurait suscité quelqu'un d'autre. Certes, mais justement, Dieu avait dit à Abraham que c'est à lui qu'il confiait cette tâche et non pas à quelqu'un d'autre. De plus, Abraham a charge d'âme et il n'a pas le droit de laisser périr de faim tous ceux qui lui ont fait confiance. Saint Thomas d'Aquin enseigne qu'il y a des nécessités matérielles qui, quelquefois bien que moins nobles que les occupations purement spirituelles, sont plus vertueuses parce qu'elles correspondent mieux à la volonté et à la sagesse de Dieu. Ainsi, dit-il, il vaut mieux étudier Dieu que de gratter la terre, mais quand on a faim, et surtout dans ce cas-ci, lorsque les autres ont faim, gratter la terre est mieux que d'étudier Dieu, et est plus vertueux, vous voyez. Abraham décide donc de partir vers l'Égypte, où il n'y risque pas d'y avoir la famine, puisque le Nil arrose sans discontinuer ses terres fertiles. Mais en arrivant en Égypte, se pose un deuxième problème, et un problème moral, c'est que Sarah était très belle. La beauté de Sarah était un don particulier de Dieu, comme la force de Samson, comme la sagesse de Salomon, comme les privilèges accordés à tant et tant de saints. Donc Dieu avait voulu que Sarah fût fort belle. Cela se comprend. Abraham était un patriarche, et il était normal que Sarah, qui était plus digne que toutes les reines qui suivront, fût également plus belle. Mais Abraham sait bien que dans ce monde païen de l'Égypte, ce monde idolâtre et donc plein de vices, la beauté de Sarah va provoquer presque à coup sûr son enlèvement. Et puisqu'elle est son épouse, le meurtre du conjoint, c'est-à-dire d'Abraham. Quand on voit que David, qui convoita une belle femme, fit tuer son époux, l'époux de cette femme, pour pouvoir l'épouser, on comprend que la crainte d'Abraham était tout à fait fondée. Alors, devant quelle alternative Abraham se trouve-t-il? Soit Sarah déclare qu'elle est la femme d'Abraham, alors celui-ci est tué et Sarah enlevée, et donc souillée. Soit elle déclare qu'elle est sa sœur, et Abraham demeure vivant, il peut protéger Sarah. Et là, il faut recourir à l'interprétation du magistère ordinaire de l'Église, c'est-à-dire l'interprétation des pères de l'Église. Faisons bien attention, mes bien chers frères, à ne jamais toucher avec des mains sales le texte sacré, et encore moins toucher avec un esprit qui ne soit pas pénétré de l'Esprit de Dieu, le texte sacré. Au contraire, ce texte sacré doit nous purifier, et c'est pour cela que je vous fais ces serments, et pour qu'il nous purifie, il faut aller chercher l'interprétation non seulement chez les saints, mais chez les saints docteurs. Voici ce que dit saint Augustin. Abraham, se trouvant en pays inconnu, voyant que la rare beauté de Sarah mettait en péril l'honneur de sa femme et la vie du mari, c'est-à-dire d'Abraham, ne pouvait parer aux deux dangers. De toute façon, Sarah serait enlevée. Il ne pouvait parer qu'à un seul danger, c'est-à-dire sauver sa vie. Et donc, il fit ce qu'il put pour ne pas tenter Dieu, s'en remettant à la Providence du soin de faire ce que lui-même était hors d'état de faire. Autrement dit, il fait ce qu'il peut, et saint Augustin précise que si Abraham n'avait pas fait ce qu'il pouvait, c'est là qu'il aurait tenté Dieu. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas à la fois protéger Abraham et protéger Sarah? Et saint Augustin répond, mais bien sûr qu'il le pouvait, tout le monde est bien d'accord avec cela. La question n'est pas là. La question est, est-ce que Dieu avait donné à Abraham les moyens d'éviter un des deux maux? Si Dieu a donné à Abraham le moyen d'éviter un des deux maux, alors à ce moment-là, Abraham doit prendre ses moyens. Et pour ce que Dieu ne lui a pas donné, alors c'est que Dieu s'en occupe. Or Dieu a donné à Abraham le moyen d'éviter un des deux maux, c'est-à-dire éviter qu'il soit lui-même mis à mort. Pour l'enlèvement de Sarah, il n'y a pas moyen de l'éviter, donc Dieu prend cela en main, il prendra soin de Sarah. Vous allez me dire, on se trouve dans une situation tout à fait dramatique. Effectivement, et saint Jean Chrysostome relève le caractère tout à fait dramatique de cette situation. Il dit qu'un époux qui aime sa femme refuse normalement qu'elle se trouve livrée à un autre homme. Et saint Jean Chrysostome montre à quel point cela fut crucifiant aussi bien pour Sarah que pour Abraham. Au passage, d'ailleurs, il fait remarquer combien Sarah fut vertueuse de s'en remettre à son époux et de faire confiance à sa sagesse, surtout sa sagesse inspirée par le Saint-Esprit. Et saint Jean Chrysostome fait remarquer la conduite de Dieu qui n'assiste point le juste, qui ne le console point, mais laisse le mal s'aggraver et s'accroître jusqu'à l'extrême, et alors seulement il montre sa providence. Alors vous me direz, est-ce qu'il n'aurait pas été plus raisonnable pour Abraham de fuir vers le nord? Et non, puisque Dieu avait dit non, non, c'est non. Mais ce n'est pas très raisonnable. Ce n'est pas très raisonnable aux yeux des hommes, mais quand Dieu dit quelque chose, nécessairement c'est raisonnable. Et nécessairement, c'est qu'il veut faire éclater sa providence par un bien plus grand que celui que nous craignons de perdre. Donc nous avons résolu deux problèmes. Le premier, pourquoi Abraham n'a-t-il pas fui vers le nord? Le deuxième, pourquoi Abraham a-t-il demandé à Sarah de déclarer qu'elle était sa sœur? Il reste un troisième problème. Est-ce que de déclarer qu'elle était sa sœur n'est pas un mensonge? Or là, mes bien chers frères, la réponse est très simple. C'est une question de traduction, tout simplement. Le mot frère et le mot sœur, dans les langues sémitiques, désignent tout parent proche. En premier lieu, ce que nous appelons les frères et les sœurs, mais également les neveux, les nièces, les cousins. D'ailleurs, l'Écriture sainte elle-même déclarera un peu plus loin que Lot est le frère d'Abraham, alors que ça n'était pas son frère, mais son neveu. Et un ami de mon père, qui était pied noir, déclarait souvent à mon père « Tu es mon frère ». Donc, non, il n'y a pas de mensonge. Abraham n'a pas dit toute la vérité, c'est vrai, mais on n'est pas obligé toujours de dire toute la vérité. Les choses se passent comme Abraham l'avait prévu. Sarah est enlevée. On a une première marque de la providence divine, à savoir que ce n'est pas un particulier qui enlève Sarah pour en faire une femme privée, mais elle est tellement belle qu'on l'amène à Pharaon. Et là, plus personne ne risque de la toucher. D'autant plus que les femmes qui étaient menées au grand roi de l'époque n'entraient auprès du roi qu'après un an de préparation. Elles étaient ointes d'huile, parfumées avec des parfums précieux, etc. Nous sommes dans un monde païen. Donc du fait que Sarah était enlevée pour être amenée à Pharaon, et fut de fait amenée à Pharaon, cela est la marque d'une providence particulière. Abraham était tranquille pour une année. Pharaon veut faire les choses bien. Il veut acheter cette femme, non pas à son père, puisqu'elle n'a pas de père, mais à son frère. Et donc, il couvre Abraham de cadeaux. C'est-à-dire que par là, Dieu montre à la face de tous qu'Abraham est un homme important. Et comme nous dit un auteur juif, Abraham prêchait le culte du vrai Dieu. Dieu donne ainsi une grande autorité à la prédication d'Abraham. Puis, quand le moment est venu, Dieu envoie des grands mots sur Pharaon et sur sa maison. Pourquoi sur sa maison? Parce qu'elle était complice. Pharaon comprend que cette femme est protégée par Dieu. Il appelle Abraham et lui fait des reproches. Pourquoi ne m'as-tu pas dit toute la vérité? Alors reprends ta femme puisqu'elle est ta femme et puis retourne chez toi. Troisième partie du sermon. La grande vertu de Sarah, hélas, je n'ai pas le temps de développer ce point sur lequel saint Jean Chrysostome s'étend longuement. Sarah, en faisant confiance à son mari, sait qu'elle fait confiance à Dieu. Quatrième point du sermon, ce sont les applications pratiques pour aujourd'hui, et cela, je ne veux surtout pas y manquer. Premier point. Abraham ne revient pas dans son pays, puisque Dieu le lui interdit, mais il est envoyé en Égypte. Nous voyons là les deux rapports de l'Église avec le monde. Elle n'est pas du monde, mais elle est dans le monde. Elle n'est pas du monde, et c'est pourquoi Abraham doit être un nomade. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Il parcourra la Terre Sainte en tous sens, sans jamais s'arrêter, d'une manière à ne pas se mêler à ces peuples qui, sans cela, deviendraient ses voisins, avec lesquels il entrerait en commerce, qu'il fréquenterait, que les gens de sa tribu fréquenteraient également, alors qu'il doit les protéger. Mais il va en Égypte, parce que là, il ne s'y fixe pas, il n'y est que de passage pour une saison. Dès que la saison sera passée, il reviendra en Terre Sainte. Alors, une application entre mille, il est très fréquent que des mauvais cousins soient plus dangereux que le monde. Parce que les mauvais cousins, du fait que ce sont des cousins, que ce sont surtout les fils de votre frère ou de votre sœur, il est difficile d'échapper à leur influence, voire même à l'influence de leurs parents. Je dis quand ils ne sont pas bons. Tandis que la fréquentation du monde, une fréquentation dans laquelle il est plus facile de rester étranger, et donc qui est moins dangereuse, parfois. Alors, une deuxième application, les écoles catholiques infidèles à leur mission sont parfois plus dangereuses que certains lycées. On m'a beaucoup reproché d'avoir écrit cela dans un de mes bulletins, et on a traduit que j'interdisais de fréquenter les écoles catholiques et que j'obligeais les bons fidèles à fréquenter les lycées. Et on a affirmé, c'est de la pure calomnie, que si je faisais cela, c'est par haine de la fraternité Saint-Pie-X, et que je préférais que les enfants se perdent dans les lycées impurs plutôt que de voir ces enfants fréquenter ceux que je haïssais. Alors premièrement, je n'ai aucune haine envers la fraternité Saint-Pie-X. J'ai envers elle, au contraire, beaucoup de pitié. Elle a été victime du monde, victime des modernistes, victime d'hommes plus puissants qu'elle, une victime plus ou moins consentante, peut-être. Un homme dont la femme l'a quitté, a-t-il de la haine pour elle? Si c'est un homme bien né, non, il a de la pitié. Deuxièmement, je n'ai jamais rien interdit à personne, car je n'ai pas le pouvoir d'interdire. Troisièmement, au contraire, j'ai le devoir de mettre chacun face à ses responsabilités. Vous êtes dans la situation d'Abraham. C'est à vous de voir ce que Dieu attend de vous, et je ne fais que vous y aider. Or, qu'ai-je dit à propos des écoles et des lycées? On m'objecte que dans les écoles modernes, il y aura les cours d'éducation sexuelle. Oui, mais je parle de fuir les écoles catholiques infidèles à leur mission. Or, les écoles catholiques infidèles à leur mission sont beaucoup plus dangereuses pour les enfants, premièrement parce que on est en famille, et deuxièmement parce que cette infidélité de ces écoles met la foi en péril, et la foi est le premier de tous les biens. Et donc nous n'avons pas le droit, pour sauver la pureté, de mettre la foi en péril. Nous sommes exactement dans le cas d'Abraham, ne pouvons pas parer les deux dangers, nous parons celui qu'il est en notre pouvoir de parer, et nous laissons la Providence protéger les enfants pour l'autre danger. Car voici comment se pose le problème. Si nous refusons de mettre les enfants dans les écoles catholiques, ce qui est normal, je veux dire, quand elles sont infidèles à leur mission, et que nous ne les mettons pas dans les lycées ou les collèges publics à cause du danger, les enfants seront retirés à la famille. Retirés et donc mis dans des écoles publiques et des lycées. Et donc, à coup sûr, leur pureté sera en danger. Comme à coup sûr, Sarah allait être enlevée. Mais dans le premier cas, je veux dire, si on les met dans les écoles publiques, la famille est encore là pour protéger, surtout si les enfants sont externes. Chaque soir, le père et la mère peuvent remettre les choses au point, et les pendules à l'heure, comme on dit. Tandis que si les enfants sont enlevés à la famille, ils sont livrés sans aucune défense livré à un grand risque de vice. Il est donc tout à fait normal, encore une fois, lorsque les écoles catholiques sont infidèles à leur mission, mon sermon n'a pas pour but de prouver que toutes les écoles de la fraternité sont infidèles à leur mission, ça, pour le savoir, vous n'avez qu'à regarder. Non pas regarder l'école elle-même, mais le résultat que cela portera sur vos enfants. Il y a à l'évidence des cas, et heureusement nombreux, dans lesquels la foi des enfants n'est pas en danger dans les écoles. Mais lorsque la foi est en danger, on doit éviter, prévenir ce danger, parer à ce danger, et quant au danger de l'école publique par rapport au cours d'éducation sexuelle, danger qui n'est pas systématique, loin de là, très loin de là, on doit se confier à la Providence, d'autant plus que les familles qui disent le chapelet, voire même le rosaire, chaque jour, bien comme il faut, à genoux, pieusement, rien ne pourra entamer la pureté des enfants. Je sais, c'est très surprenant, aussi surprenant que l'attitude d'Abraham, c'est bien pour cela que le Saint-Esprit a voulu que Abraham se trouvât dans cette situation. C'est pour cela que le Saint-Esprit lui a inspiré cette réponse, et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui la lui a inspirée, puisque tant Saint Jean Chrysostome que Saint Augustin que Saint Ambroise, et d'une façon générale, tous les commentateurs de l'Écriture sainte, je veux dire les pères de l'Église, pas les modernes, disent qu'effectivement Abraham a été fidèle aux inspirations divines. Donc c'est pour cela que la Providence a voulu qu'Abraham se trouvât dans cette situation, qu'elle a voulu lui inspirer cette réponse, et qu'elle a voulu, troisièmement, que cela fût consigné dans les textes sacrés pour nous servir de leçon et de guide. Mon sermon est un petit peu plus long que d'habitude, mais je ne pouvais vraiment pas faire autrement pour une affaire aussi délicate, et je vous demande votre patience encore 30 secondes pour vous dire que je suis tout prêt à m'entretenir avec vous si vous me posez des questions. N'hésitez pas, par courriel, par téléphone, en venant me voir. Ces affaires sont trop importantes pour que je ne vous réponde pas, et je serai très heureux de vous aider à résoudre vos problèmes ou vos interrogations pour que vous soyez pleinement sous l'influence du Saint-Esprit. Dites le rosaire chaque jour. La Très Sainte Vierge non seulement protégera vos enfants, votre famille, mais elle vous enverra le Saint-Esprit avec ses dons pour prendre les bonnes décisions lorsque vous serez dans la même situation qu'Abraham. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.